Donc, Philippiens chapitre 3, et nous allons à peu près être dans tout ce chapitre. L'étude de ce matin, je l'ai intitulée « Le plongeon de la victoire ». Le plongeon de la victoire, dites comme ça, j'ai pas vu ça dans la Bible. Ben, c'est parce que je m'inspire d'un événement des Olympiques de Rio, là. Peut-être vous vous souvenez, le 400 mètres féminin, où Shawnee Miller, des Bahamas, à la fin de sa course, s'est jetée sur la ligne d'arrivée et elle a pu rafler la médaille d'or alors qu'elle avait déjà la médaille d'argent. Et elle est partie à 7 centièmes de seconde, elle a pu faire la différence. Mais ce n'était pas très classique de se jeter de cette manière-là, mais elle a eu la médaille. Et par la suite, plus tard, elle a dit, mais je voulais une chose, c'est de pouvoir remporter la victoire et avoir la médaille. C'est cette motivation qu'elle avait, ce désir, elle était prête à tout faire et prête même à supporter des brûlures et des être écorchée et tout cela, mais pour avoir la médaille. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser justement à ce passage dans Philippiens chapitre 3 et les versets 13 et 14. Peut-être qu'on pourrait ouvrir la porte là pour que ça circule. Oui. Philippiens 3, les versets 13 à 14, il nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez, le sentiment que cette jeune fille avait, eh bien, c'est le sentiment qu'avait l'apôtre Paul. Il était prêt à tout. Il a dit, je veux remporter le prix. Ce n'est pas une question de presque, ça ne suffit pas, c'est d'y aller jusqu'au bout. Et il dit au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ce sentiment profond qu'avait l'apôtre Paul, et il l'exprime et il se sert, et bien sûr nous savons que les Olympiques ça vient de la Grèce et c'est par là-bas où il se trouvait. Et donc il comprenait l'esprit, peut-être c'était pendant les Olympiques qu'il a eu sa pensée, il a puisé son image, mais la réalité là, ça s'exprime exactement son sentiment. Mais d'un autre côté, j'étais en train de réfléchir, et c'est vrai, je pense que la plupart d'entre vous seriez d'accord que l'apôtre Paul a mieux compris l'esprit de l'évangile que nous. C'est l'évangile, ce que voulait dire le salut en Jésus-Christ. Et pour lui-même, il n'avait aucun doute concernant son salut. Il l'a même écrit dans le premier chapitre et au verset 23, il dit, parce qu'il a frôlé la mort, et au verset 23, il dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. » Il a dit « Moi, je suis prêt, dans un sens, ça m'arrangerait et ça serait bien mieux si je pouvais partir parce que quand je pars, je serai auprès du Seigneur. » Mais il dit « Mais pour votre intérêt, eh bien, je suis prêt à souffrir encore quelques années. » Pour vous. Il n'avait pas de doute concernant son salut. Il était sûr d'être sauvé. Alors, Paul, si tu es sûr d'être sauvé, si tu sais que c'est bien mieux, alors pourquoi tu t'épuises à courir et te dire que je dois remporter un prix et je ne l'ai pas encore remporté, mais je cours afin de le remporter. Mais tu cherches quoi, Paul? Tu nous dis d'un côté que tout a été fait sur la croix. Et puis d'un autre côté, tu nous encourages à courir. Et c'est un peu là où nous voulons nous arrêter ce matin. parce que il dit le simple fait que Paul dit il faut que je cours pour remporter le prix. On dit Paul, je ne sais pas après quoi tu cours, mais puisque toi tu cours, moi je vais courir aussi. Hein, c'est un peu dans un sens, c'est le grand frère qui court. C'est comme ça que il y a parfois des ruées de gens. Hein, c'est la peur parfois, ça fait que tout le monde se met à courir. Ils en voient un courir et tout le monde se met à courir. On ne sait pas pourquoi. Mais là, ça serait un bon exemple. On voit l'apôtre Paul qui court, dit Paul, lui il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, puisque lui il court, ben je cours. Et je cours dans le même sens que lui. Et dans un sens, ça devrait nous suffire de savoir qu'il court après quelque chose, même si je ne le saisis pas complètement. Mais et en tant que chrétien, ayant reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, eh bien, est-ce que, et trop souvent c'est le cas, eh bien les chrétiens se contentent de rester là et de chanter « J'ai l'assurance de mon salut » ou d'autres chants qui disent la même chose, quelque chose d'équivalent. « Moi, je suis sauvé. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, mes péchés sont pardonnés, mon nom est inscrit, je suis scellé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux de plus? Ça me suffit, moi j'attends. Hein, la salle d'attente, elle n'est pas très confortable, mais au moins ça vaut la peine parce que je sais qu'il y a le Seigneur. » Et c'est un sentiment qu'on trouve, mais ce n'est pas ce qu'on trouve chez l'apôtre Paul. Paul, il n'est pas là pour se la vivre en douceur et puis dire, écoute, Paul, je suis en tant que pharisien, tu courais, et puis quand tu as cru que cette doctrine qui venait de Nazareth était une secte, tu t'es donné pour la combattre. Mais maintenant que tu as compris, maintenant que tu as reçu l'évangile, tu as connu Jésus-Christ, tu l'as rencontré, tu sais qu'il est vivant, bah alors calme-toi, repose-toi dans ta foi. Et dans un sens, c'est vrai. On n'a pas à se faire du souci par rapport à notre état éternel. Mais pour nous, l'apôtre Paul semble avoir compris quelque chose et saisi quelque chose que tous n'avons pas saisi. Alors je veux faire une première mise au point. Revoyons un peu ce que la Bible nous enseigne rapidement. Nous sommes d'accord, Jésus-Christ est mort sur la croix pour prendre sur lui le péché. Hein, il nous dit même dans la prophétie d'Ésaïe, nos péchés sont tombés sur lui, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et puis nous avons compris que c'est grâce à son sang versé que nous avons la rémission des péchés, c'est pas seulement qu'ils sont couverts, comme ça l'était dans l'Ancien Testament, c'était recouvert par le sang expiatoire, mais maintenant c'est remis, c'est-à-dire à ne plus être trouvé. Hein, depuis la croix, le péché est remis. Et alors, et nous savons que c'est vrai, parce que alors que Jésus était sur la croix, et au moment où il a rendu son esprit, eh bien le voile dans le temple s'est déchiré. Dieu l'a déchiré, parce que ça a été déchiré du haut vers le jusqu'en bas. Et là où c'était interdit de pénétrer pour tout homme, eh bien là tout d'un coup c'était ouvert. Et Dieu voulait dire, et c'était un message fort qu'il donnait au monde entier, et surtout à la nation d'Israël, c'est que la porte est ouverte, l'accès est là, vous pouvez venir jusqu'à moi. Le péché a été expié, le vrai sacrifice expiatoire a été donné, et vous pouvez pénétrer. Et donc, et c'est après cela, après que le brigand, vous vous souvenez, il y avait deux brigands, et puis au début, ils s'étaient moqués tous les deux de Jésus. Toujours quand il y en a trois, il y en a deux contre un. Hein, vous connaissez, vous vivez depuis assez longtemps. Hein, et là, ils étaient deux contre un, puis tout d'un coup, il y en a un qui a commencé à comprendre des choses. Et puis il s'est tourné vers Jésus, il dit, mais nous, on sait pourquoi on est là, mais toi, pourquoi est-ce que tu es là? Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Et Jésus a pu lui dire, et lui a dit tout de suite, lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Vous savez, celui qui croit n'a pas besoin d'autre chose pour être sauvé. Cet homme n'a rien fait d'autre que de reconnaître qui était Jésus, de s'adresser à lui et de lui demander ce salut. Et il l'a eu. Et Jésus l'a donné de suite, alors qu'il était encore sur la croix et en train de subir le jugement vis-à-vis de la société. Eh bien, Jésus avait tout remis. Dieu avait tout pardonné. Et il lui a dit aujourd'hui, et nous savons, nous comprenons que celui qui exerce la foi est sauvé. Hein, il nous dit dans Romains, il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est une chose sûre. Et alors, après la croix, on aurait pu dire, mais il a fait le nécessaire, il a même dit, tout est accompli. Tout est nécessaire pour qu'on soit sauvé. Alors pourquoi est-ce qu'il a continué à nous donner des choses? Il avait déjà démontré l'ampleur de la grâce de Dieu. Il avait déjà montré à quel degré le Père nous aimait. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et nous, on n'en demande pas plus. Mais vous savez, Jésus a donné bien plus. Il a envoyé le Saint-Esprit. Mais on n'avait pas besoin du Saint-Esprit pour être sauvé. On n'avait pas besoin de le recevoir. Cet homme l'avait reçu. Bon, il a été sauvé à la manière de l'Ancien Testament, mais il était sauvé, il était au paradis. Jésus nous offre en plus cette intercession. Il a dit, je vais m'asseoir à la droite du Père et je vais intercéder pour vous. En votre faveur. Mais si on est déjà sauvé, pourquoi ça en plus? Le baptême dans le corps de Christ, où il nous introduit dans le corps de Christ et forme le corps qui devient l'épouse de Christ. Pourquoi ça en plus? À quoi est-ce que tu penses, Seigneur? Après, il nous donne cette possibilité de jouir de la communion fraternelle les uns avec les autres. Mais on est sauvé individuellement. Chacun est sauvé. Chacun va dans la gloire. Pourquoi est-ce que tu inventes cette chose de la communion fraternelle? Elle est agréable, bien sûr. Mais tout ce qu'on demandait, c'est d'être sauvé. La prière. Pourquoi il nous offre la prière? Il suffisait, l'homme sur la croix, le brigand sur la croix, il a prié une seule prière. Père, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton règne. Une seule prière, ça lui a suffi, il était au paradis. On dit, mais voilà. Pourquoi est-ce que nous avons cette possibilité d'intercession, de présenter des requêtes, d'entrer en communion avec le Père dans la prière? Pourquoi tout cela en plus? Pourquoi tu nous l'offres? C'est pour quoi faire? Pourquoi est-ce qu'il nous donne l'armure du chrétien? Éphésiens chapitre 6, pourquoi cette armure? Pourquoi est-ce que... Tu penses à quoi, Seigneur? Nous, on demande qu'à être sauvés. Et puis pourquoi toutes ces épîtres de l'apôtre Paul et de Pierre et de Jean et tout cet enseignement pastoral dans ces épîtres, pourquoi tout cet enseignement sur la sanctification, sur la marche, pourquoi tout cela? Est-ce que tu pensais à quelque chose? Est-ce que tu voulais quelque chose pour nous? Eh bien moi, vous savez, je commence à comprendre qu'il y avait quelque chose. Pour lui, son but, ce n'était pas de nous sauver. Son but, c'est de nous voir marcher à sa gloire. Vous savez, pour Dieu, notre salut, c'est réglé. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes venu devant la croix de Christ, vous avez reconnu qu'il est mort pour vous à votre place, qu'il a porté votre péché et qu'il peut vous sauver maintenant, si vous le croyez, vous êtes sauvé. Et c'est bon. Il dit, moi, je ne reviens plus dessus, c'est réglé. Il n'y a pas de condition, ce n'est pas si tu es fidèle, ce n'est pas si tu es bon, non, c'est fait, c'est décidé, tu es sauvé maintenant, ce n'est pas que tu seras sauvé. Mais dis, mais ce qui m'intéresse, c'est cette, entre le jour de ta nouvelle naissance et le jour où on se retrouve dans la gloire. C'est pour Dieu, c'est ce qui le préoccupe. Et l'essentiel de ce qui a été révélé après Pentecôte concerne cette partie-là. Tout cet enseignement, c'est pour cette partie-là, cette partie entre le jour où, de ma nouvelle naissance et le jour où je suis enlevé, où mon âme rejoint le Seigneur dans la gloire. Vous savez, le brigand sur la croix, il a pu être sauvé et entrer au paradis sans être baptisé, sans recevoir le Saint-Esprit, sans être introduit dans le corps de Christ, sans avoir plus de connaissances ou de compréhension biblique. Et il est rentré au paradis. Ce n'est pas indispensable pour être sauvé, tout ça. Et heureusement pour nous, parce que j'ai déjà voyagé, j'ai été dans des pays où les gens avaient très peu de connaissances, à peine accès à la parole de Dieu, mais ils s'accrochaient à quelques vérités de la parole, et avec ça, ils étaient prêts à mourir pour Christ. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et le mot parole, ce n'est pas logos, c'est rhéma, c'est-à-dire une parole de Christ. Il suffit de s'accrocher à une parole de Christ, de la croire, et on peut être sauvé. Je n'ai pas besoin de comprendre toute la Bible pour être sauvé. Heureusement, c'est une grâce de Dieu. Mais là, maintenant, il nous dit, mais bon, maintenant que tu es sauvé, c'est sauvé, c'est pas pour être sauvé, hein, c'est pas, on ne récupère pas ces gens qu'on récupère dans la mer Méditerranée, on les récupère, et puis on dit, bah, voilà, c'est sauvé, tu es content. Eh ben voilà, tu restes sur ce bateau-là, tu es en sécurité, et voilà. Non, non, le gars, il veut une vie après. C'est pour ça qu'il a pris ce risque. Et nous, en tant que chrétiens aussi, nous devons désirer une vie après. Maintenant que nous sommes membres de cette nouvelle alliance, et on aime bien célébrer la scène, et ici nous la célébrons une fois par mois, le deuxième dimanche du mois, et cette scène, mais durant cette scène, cette première scène, Jésus a inauguré la nouvelle alliance en Jésus-Christ, en son sang. Et nous faisons, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, puisque nous ne sommes de ce côté-ci de la croix, eh bien nous rentrons dans cette nouvelle alliance, cette alliance de Christ. Et dans cette alliance, eh bien justement, il y a une vie à vivre. Ce n'est pas justement une question d'être sauvé, c'est une question de vivre une vie à sa gloire. Et cette vie qu'il désire de nous, ce n'est pas dans le ciel qu'il faudra la vivre, c'est maintenant qu'il faudra la vivre, dans ce monde. Hein, et je n'ai pas lu la suite de la prière du Seigneur, mais justement, il parle de cette vie. Il a dit, j'ai fait exprès, je veux qu'ils restent dans ce monde. Même s'ils ne font pas partie de ce monde, je veux qu'ils restent dans ce monde et qu'ils me représentent. Et donc, si je comprends bien, si je lis bien la Bible, si je comprends à quoi il pense, j'ai comme cette impression qu'il voudrait que nous marchions. Ce n'est pas seulement de naître, la nouvelle naissance, c'est une belle chose. C'est une grâce de Dieu. Mais dit, tu nais, c'est pour marcher. Hein? J'ai eu 3 enfants. Et grâce à Dieu, ils étaient tous les 3 en bonne santé. C'est une grâce. Et il y a un moment, ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Bon, les premières fois, c'était quand même un peu coussi-coussa, hein, mais ils ont appris à marcher. Aujourd'hui, ils marchent, ils courent, ils sautent, ils font tout. Mais vous savez, s'ils n'avaient pas appris à marcher, s'ils étaient restés encore, ils ont dit, bah, nous, on est contents d'être vivants. Hein. Et le lit, c'est pas mal. Et puis maman, elle nous amène la nourriture jusqu'au lit. Et si elle veut nous déplacer, elle nous porte. C'est pas mal, hein, c'est bien cette vie-là. Oui, ouais, mais s'ils ont cette pensée-là, moi, je les emmène au médecin. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Père Céleste, quand il voit ses enfants qui sont là, puis ils sont contents, « Alléluia, Seigneur, je suis sauvé, et c'est merveilleux ce que tu as fait pour moi, moi ça me suffit, je ne demande pas plus hein, d'être vivant, et puis de temps en temps un petit verset pour m'encourager, puis tu le sers, et puis il y a un gentil petit pasteur là qui vient, et puis qui m'encourage aussi de temps en temps. Ah, c'est du service ça !» Vous savez, vous ne croyez pas qu'il aurait envie de nous emmener chez le médecin ? Il dira, il y a quelque chose qui ne va pas là, il n'a rien compris. Et pourtant, il a tant d'enfants qui pensent comme ça. Et le grand besoin que nous avons est celui de pouvoir marcher sur terre à la gloire de Dieu. Et c'est ce à quoi s'adressent les épîtres pastorales. Vous savez ce qu'il dit le premier verset du chapitre 3 de Philippiens, vous êtes là. Vous savez ce qu'il dit au premier verset, c'est par ça qu'il commence. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. On dit Alléluia. Voilà. Non, c'est pas terminé, il y a encore un petit peu là. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il dit, moi, je ne me fatigue pas de le dire parce que je sais que c'est tellement important. Vous qui êtes maman, il y a certaines choses que vous avez répétées plus d'une fois à ces mignons petits anges-là, qui ne se comportent pas toujours comme des anges. Il y a des choses que vous avez répétées souvent. Ce n'est pas pour les embêter, hein, même si eux ils l'ont pris comme ça parfois, mais c'est parce que pour eux, c'était salutaire. Reste avec maman. Bouge pas, reste là. Oui, mais après que dès qu'on devient maman, après on fait la même chose. Mais vous savez, il dit, je ne me lasse pas de vous répéter ces choses, parce que c'est salutaire. Et il ne parle pas uniquement du salut, parce que justement, on lit la suite du chapitre, et il ne parle pas du salut, il parle de la vie chrétienne. Je commence à lire. Verset 4. Il dit, moi aussi, Paul écrit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je vous bats tous, il dit. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant à Ozel, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit, mais ces choses étaient pour moi des gains. Qui étaient des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Et en fait, le mot, c'est gentil, la boue, c'est-à-dire du fumier, afin de gagner Christ. Il dit, il y avait des choses après lesquelles je courais, je m'épuisais, je me donnais pleinement à ces choses-là. Et c'était pas c'était une bonne vie religieuse, hein, c'était un bon citoyen. Il dit, mais tout ça, je courais après ces choses-là, oui, mais maintenant, ça vaut rien pour moi. Et quand il pense à cette boue des ruelles des villes de l'époque, il y avait de tout, hein, parce qu'il y avait tout qui passait là. Il savait combien cette boue était sale. Il dit, c'est ça pour moi. Toutes ces choses-là, je les laisse, je les considère comme une perte. Il y a une première chose, il y a une première étape, si je veux vivre cette vie chrétienne, c'est quelque part qu'il y a des nouvelles valeurs à établir. C'est que ce après quoi que je courais avant, eh bien je ne cours plus après. Ça n'a plus la même importance, ça n'a plus la même place, ce n'est plus mon seul objectif. J'ai autre chose, je pense à quelqu'un d'autre, j'ai une autre direction. Et la plus grande préoccupation de l'apôtre Paul, eh bien, il exprime au verset 10, il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ ». Numéro 2, la puissance de sa résurrection. Numéro 3, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il a dit, tout ça que j'avais, qui était plus que n'importe lequel d'entre vous, vous battez tous sur ce point-là. Mais il dit, pour moi, j'ai mis ça de côté. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi la connaissance de Christ. Mais Paul, tu as compris plus que nous. Il dit, non, je cherche la connaissance de Christ parce qu'il croit que Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et s'il est Dieu, son attribut, c'est l'infini. On ne connaît jamais tout sur Christ. Il y a toujours plus à connaître. Déjà, les pauvres maris, ils pensent qu'ils ne connaissent jamais leur épouse. Ils ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne là-dedans, entre les oreilles. Alors combien plus Dieu, Jésus-Christ, le connaître ? La première chose, il le dit au verset 13 et 14. Regardez ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Voilà la première chose que je fais. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il dit « Si je vais courir, si je vais remporter une course, et peut-être vous-même avec votre expérience, je sais avec la mienne, c'est que c'est très vite difficile de gagner une course en regardant derrière. Parce qu'il y a, avec les chances que j'ai moi dans la vie, c'est sûr qu'il y aura un poteau devant moi. Ou autre chose. Ou qu'on dévie. Et puis qu'on se retrouve ailleurs, on ne traverse jamais la ligne d'arrivée. » Il a dit, il y a une chose que je fais. Je ne regarde plus en arrière. Je ne regarde plus à ce que j'ai laissé. Vous savez ce qui est arrivé à la femme de Lot, hein, quand elle a regardé en arrière. Elle n'a pas cru que Dieu avait quelque chose de meilleur pour elle. Et elle a commencé à regretter ce qu'elle laissait. Et elle n'a pas été loin. Et Jésus rappelle cela, il reprend cette parole. Il croyait à ce récit. Nous, on dit, oh, bon, c'était une manière de dire les choses. Non, non, Jésus, il croyait. Hein. Il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et il ajoute, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. C'est ça qu'il a dit, juste après avoir dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ce n'était pas une question de, tu vas devenir un pilier de sel, ce n'est pas ça. C'est une question de, si tu fais et tu regardes en arrière, ce que tu crois obtenir, tu le perdras, tu ne l'auras pas. C'était un peu la pensée de ce jeune homme qui s'est donné pour servir le Seigneur en Amérique du Sud. Et il s'est dit, il a écrit, on a retrouvé ça dans ses notes, il dit, il n'est pas fou. Celui qui laisse ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Et c'est là sa vie chrétienne. Ces choses du monde, vous pouvez vous battre, et puis tout d'un coup, regardez ces gens en Californie avec un feu, eh ben, ils ont perdu toute la maison, ils recommencent. Et les gens en Louisiane, ça fait la deuxième fois que la maison est inondée. Ils ont reconstruit à peine en moins de 9 ans, la deuxième maison est inondée. Vous savez, pourquoi s'acharner pour garder ce qu'on ne peut garder, ce qu'on pourrait perdre à n'importe quel instant, alors qu'il y a des choses qu'on peut obtenir qui ne seront jamais enlevées. Jésus a dit à la femme, à Marie, il le disait à Marthe, mais au sujet de Marie, il a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Elle ne la perdra jamais parce qu'elle cherche à me connaître. Elle est assise à mes pieds et elle cherche à me connaître. Il n'encourage pas la paresse. Il est en train d'encourager cette recherche, la connaissance de sa personne. Je continue à lire. Regardez, commence à lire au verset 15. Verset 15 dit, « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits. » Oh là là, Paul, tu parles de qui? Il dit, « Mais ouais, normalement, c'est nous tous, hein. » Il parle à l'église de Philippe, qui est une bonne église, mais il parle d'hommes faits, il a dit des hommes parfaits, des hommes accomplis, réalisés, matures. Il dit, nous tous qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Il dit, si vous ne pensez pas comme moi, c'est vous qui vous trompez. Et je suis patient avec vous parce que vous comprendrez par la suite. Il dit, mais la réalité, c'est d'avoir cette pensée, cette même pensée. Au chapitre 2, il nous parle de cette même pensée. Chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Il dit, ce qu'il nous faut, cette communion, ce n'est pas le fait, vous savez, c'est très baptiste d'avoir des collations, des choses comme ça, on a toujours des petits repas ensemble, mais c'est une pratique très baptiste. Mais il dit, c'est pas ça. La communion, c'est cette même pensée, avoir la pensée de Christ. on se trouve uni lorsqu'on adopte la pensée de Christ, les mêmes sentiments de Christ, la même âme que Christ veut dans son Église. Et donc, je continue à lire verset 17, au verset 16. « Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Il dit au moins « marchons ensemble dans la même direction. » Verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Et je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit malheureusement, il y a parmi ceux qui croient, ceux qui sont enfants de Dieu, il y en a qui se comportent en ennemis de la croix. C'est comme ça qu'il l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, leur manière d'agir, ça, il montre qu'ils ne croient pas à la croix, que la croix ne représente rien pour eux. Ils l'ont oublié, c'est une chose du passé. On est passé par là, maintenant on a continué. Il dit, ils marchent en ennemi de la croix. Leur manière de vivre, c'est comme si la croix n'existait pas. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme des athées. Parce qu'ils se comportent comme si Dieu n'existait pas. Et il dit, il y en a, lui dit, il y en a qui se comportent, qui marchent comme ennemis de la croix. Il a dit, ça c'est l'autre catégorie. C'est pas ça que je vous suggère. Moi je suggère que vous marchez, vous me prenez comme exemple si vous voulez, parce que comme ça vous pouvez me voir, mais marchez comme moi, marchons ensemble. Et il dit, je parle d'eux en pleurant, parce que c'est eux les perdants. Pourtant l'apôtre Paul, il a fait de la prison, et puis il décrit ça dans 2 Corinthiens, et il parle de tout ce qu'il... Il a dit, oh non, je pleure pour eux. Parce qu'ils s'amusent dans le monde, ils jouissent dans le monde, mais les pauvres... C'est triste quand je pense à ce qui les attend. Regardez, verset 19. « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il dit, ah, c'est là le problème. Les pensées sont ailleurs. Les yeux sont ailleurs. Les désirs sont ailleurs. Et il dit, et ça va entraîner leur perdition. Il ne parle pas de la perte du salut, mais il dit, ils perdront toutes ces grâces que le Seigneur nous prépare, tous ces encouragements que nous pouvons avoir dans la vie chrétienne, et la joie de pouvoir le connaître et d'être avec lui. Paul dira, en parlant de Démas, il dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas, qui était un collaborateur avec qui il avait travaillé, il y a un moment où il dit, Démas, oh, c'est mon prochain, on travaille ensemble. Et puis après il dit, Démas m'a abandonné par amour pour les choses présentes. Et il dit... Il dit, c'est triste, je pleure pour ces gens-là. Je pleure pour ceux qui retournent vers ceux qu'ils avaient abandonnés, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi. Il dit, je pleure pour eux, c'est triste, parce qu'ils deviennent malheureux. Vous savez, des chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu des choses avec le Seigneur et qui retournent dans le monde sont des gens malheureux. Et ils sont obligés de courir pour ne pas penser. Tellement ils sont tristes. Le contraste est évident. Et le contraste existe parce que justement il y a des intérêts différents. Je continue mon chapitre là. Il n'y a rien à interpréter, il y a juste à souligner certaines vérités. Mais au verset 20, il dit, mais nous, les hommes faits, nous qui marchons dans le Seigneur. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. On ne l'oublie pas. On n'est pas d'ici, on est de là-haut. Nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a dit, ah, moi je mise sur Jésus-Christ. Il a tout, il peut tout, il fera tout, et tout ce qu'il a promis, il le réalisera. Vous savez, vous voulez investir les quelques euros que vous avez, vous voulez quelque chose de sûr. On parle d'investir dans du dur, on va investir dans quelque chose de sûr. Eh bien, écoutez, il n'y a rien de plus sûr que Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui viendra, qui nous ressuscitera, qui nous transformera, qui nous rendra à l'image, son image. C'est un peu le thème de la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens, où il dit, nous serons transformés et nous serons ressuscités avec lui. Et puis, cette exhortation de 1 Corinthiens 15, la fin du chapitre et le dernier verset, nous dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, frère, misons sur Jésus-Christ, parce que tout est là. Il dit, et si nous croyons cela, eh bien soyons fermes, soyons inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et c'est ainsi que, finalement, c'est ce qu'il nous dit ici à la fin de ce chapitre. Regardez au chapitre 4, verset 1. Il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés, demeurez fermes. Il dit, restons dans la course et restons jusqu'au bout, peu importe dans quel état ton corps arrive. Ce qu'il veut, c'est remporter la course, aller jusqu'au bout. Comme j'oublie le nom de ce coureur, je crois qu'il était éthiopien, il est tombé, il s'est fait mal, mais il s'est relevé et puis en trébuchant, il a continué à faire le tour jusqu'au bout de la course. Je lui dis, mais tout le monde était parti, les gradins étaient vides. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient là. Il dit, mais pourquoi tu as continué? Il a dit, parce que moi, mon pays m'a envoyé, c'est pour finir la course. Ben finalement, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, pas pour avoir des bibelots dans le ciel. Hein. Et puis après, comme ça, il va se promener pendant l'éternité. Ils sont mignons, hein, tous ces... Je les ai rachetés, celui-là, c'était un roi, il était terrible, hein, mais regarde-là maintenant, gloire à Dieu. Puis, c'est pas ça que le Seigneur cherche. Seigneur, c'est maintenant qu'il peut faire la démonstration, que nous pouvons faire la démonstration que son œuvre était extraordinaire et que les anges regardent et disent, bon, ces gens-là, on les connaissait avant et tu as pu faire ça avec eux et ils vivent de cette manière-là, dans ce monde-là, malgré... Eh bien alors, Christ, tu t'es surpassé. Gloire à ton nom. C'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est ça que Paul a compris. Et cette jeune fille qui s'est jetée pour emporter, c'est parce qu'elle voulait à tout prix avoir la victoire. Maintenant, c'est à nous de voir et de se situer. Est-ce que je vais être parmi ceux qui marchent comme ennemis de la croix? Il y a un frère qui m'a appelé de Lyon hier. Cette dame qui habitait dans son quartier, dans sa cité... d'une autre religion, elle dit, écoute ça là, tu es chrétien, non? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, mais bon, chrétien, ça ne veut rien dire, hein. Il y a beaucoup qui s'appellent chrétien. Il dit, mais ce que je t'ai dit, c'est que je crois à la Bible. Elle dit, oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Il dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Gardien HLM, mais tu n'es pas comme les autres. Il dit, moi, je veux des études régulières avec toi. Je veux suivre ce livre-là. Parce qu'on vit autrement. Parce qu'on vit pour quelqu'un d'autre. Même si on est minoritaire, mais un avec Dieu, c'est la majorité. Est-ce que je vais vivre en ennemi de la croix, marcher comme un ennemi de la croix, ou est-ce que je vais marcher comme ami de Jésus-Christ? Prions. Je vous donne quelques moments de silence pour que vous puissiez prier les sentiments de votre cœur, que vous puissiez dire à Dieu ce que vous avez à dire, et puis ensuite je vais clore avec la prière.